Nigel Baker, vous êtes ambassadeur de Grande-Bretagne près du Saint-Siège depuis une petite année.
Depuis une année, oui, exactement.
Et vous êtes devenu le premier diplomate accrédité auprès du Saint-Siège à décrire votre expérience dans un blog. Pourquoi? Pour qui? Quel sens ça?
Oui, ce n'était pas pour être le premier, il faut le dire. Donc vraiment, quand j'ai su que j'étais destiné à Rome, au Saint-Siège, déjà beaucoup de gens m'ont posé la question, c'est quoi le rôle de l'ambassade auprès du Saint-Siège? J'ai aperçu que c'est vrai que c'est difficile de comprendre pour une personne qui ne connaît pas peut-être le Vatican, le rôle de Saint-Siège, sauf au travers les journaux, et même pour des fonctionnaires dans notre ministère des Affaires étrangères, parce qu'on connaît très bien que fait un ambassadeur en France, en Espagne. Alors j'ai décidé d'offrir un peu une petite fenêtre au monde de Saint-Siège avec un blog. Un diplomate doit communiquer au monde. Maintenant, peut-être le médium plus efficace pour cette communication, ce sont les réseaux virtuels. Alors, j'ai décidé de le faire à travers un blog et ça me donne l'opportunité d'exprimer un peu, semaine pour semaine, ce que je fais.
Alors justement, Nigel Baker, j'ai regardé votre blog et on sent que vous aimez communiquer. D'ailleurs, dans un de vos articles sur le rassemblement de Sant'Egidio à Sarajevo, vous dites « Nous, diplomates, nous avons comme instrument, comme outil, le dialogue ».
Oui, c'est vrai, c'est notre instrument. Auparavant, les diplomates considéraient ce dialogue comme un dialogue entre les diplomates et les hommes politiques, sans ouvrir ce type de dialogue au grand public. Je crois que ce n'est pas possible maintenant pour les diplomates de maintenir précisément ce type de dialogue secret. Il y a des choses qui doivent être réservées, ça c'est normal. Mais c'est aussi important pour montrer à tous les Britanniques qui payent les impôts, par exemple, parce qu'ils payent pour mon ambassade, qu'on fait des choses utiles pour le pays. Alors, le dialogue, c'est un dialogue qui ouvre beaucoup d'opportunités, mais aussi qui insiste sur une chose, que l'expression, l'habilité de communiquer avec des gens qui ont des points de vue absolument différents, que le dialogue est important avec eux et que pour éviter le mal compréhension, il faut être ouvert aussi aux gens qui ont un point de vue absolument différent. Alors le dialogue, c'est le premier, pour moi, le premier instrument de le faire.
D'ailleurs, plus haut dans ce blog, vous citez Madeleine Albright qui pose la question « Pourquoi nous ne pouvons pas évacuer la religion de la politique étrangère ?»
Oui. Oui, c'est vrai. Non, c'est absolument important pour les diplomates de reconnaître que la religion, c'est une dimension importante, très importante pour la majorité des gens. On ne peut pas faire le travail d'un diplomate en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, sans reconnaître que pour la majorité des personnes, la religion est un élément très, très important, peut-être fondamental dans leur vie. Pour un diplomate qui est à Bagdad, à Liban, à Jérusalem, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ce qui est aussi très important pour nous et notre travail comme diplomate est très important pour les services britanniques, c'est appuyer liberté d'expression et liberté de religion sont une base pour cela. Et c'est pour cela que c'est une partie très importante de notre politique étrangère.
Droit de l'homme, droit à la liberté de religion, de l'expression de la religion. Et dans votre blog, il y a un article sur quelqu'un que vous avez rencontré à Cuba et oui, qui s'appelle
Oswaldo Paya.
C'était un dissident, Oswaldo Paya, qui a vécu à Cuba et que vous avez rencontré et qui a été tué donc en juillet.
Oui, Oswaldo Paya, c'était un honnête homme, un père de famille, une personne des valeurs absolument très très fort, chrétien. Il a décidé de défier le gouvernement totalitaire qui n'a pas voulu, qui ne veut pas effectivement la libre expression des gens en Cuba. La libre expression de religion, c'est très limité. Il n'était pas un type de dissident professionnel, il était une personne très, très simple. Il a travaillé toujours pour les peuples cubains. Il a travaillé comme un ingénieur dans une fabrique. Il a résisté beaucoup aux pressions du gouvernement. Et c'était toujours le foi chrétien qui l'a donné un peu la force de continuer durant les moments très difficiles.
La foi chrétienne.
La foi chrétienne, exactement.
Comment est-ce que vous l'avez rencontré, Osvaldo Paya?
Oui, j'ai travaillé comme diplomate à Cuba. Nous avons eu des relations très importantes avec l'Église catholique et les autres églises en Cuba parce qu'il y avait un espace plus libre pour les gens dans l'Église. Et c'était pour nous un point qui nous a encouragés un peu de montrer que ce n'était pas la version officielle du pays, ce n'était pas nécessairement la vérité.
Et donc, Osvaldo Paya défendait les droits de l'homme de façon simple, mais en même temps très décidée.
Simple, décidé et efficace. Il était le seul dissident avec un réseau de contacts partout dans l'île. Je crois qu'il a fait une pétition avec 11 000 signatures pour faire pression sur le gouvernement d'ouvrir un peu la constitution ou de reconnaître les libertés qui s'étaient inscrites dans la constitution, mais pas dans la vérité. Alors, c'était très dangereux. Le gouvernement a réagi très, très fortement. Il lui a passé des périodes de détention domicile, etc., etc., mais il toujours a continué. Alors c'était pour moi vraiment un moment triste des nouvelles de la mort de Paya dans un incident
de voiture,
et j'ai voulu reconnaître ce qu'il a fait pour Cuba.
Vous avez rencontré aussi Benoît XVI au mois de février pour les 30 ans des contacts entre le Royaume-Uni et le Saint-Siège. Qu'est-ce qui a changé depuis février?
C'était une délégation très importante. C'est la première fois que nous avons eu une délégation tant importante ici à Rome, au Saint-Siège, délégation de sept ministres de différents dossiers. Nous avons voulu marquer l'importance de la relation entre le Saint-Siège et Grande-Bretagne après la visite de Saint-Pierre à Grande-Bretagne en 2010. C'était une grande réussite. Et aussi marquer la profondité de notre relation, que ce n'était pas seulement une relation symbolique, pas seulement une relation basée sur la courtoisie, c'était une relation basée sur le travail.
Sur des intérêts communs.
Sur les intérêts communs, bilatéraux aussi, global. Pour cela, il y avait notre ministre de développement, par exemple, pour parler sur l'événement international, pour parler de ce qu'on fait en Afrique, par exemple, et ce qu'on pourrait faire entre le Saint-Siège et Grande-Bretagne, sur le plan d'éducation. Il y avait notre ministère pour Écosse et pour l'Irlande du Nord. Il y a les grandes communautés catholiques, particulièrement en Irlande du Nord. Le Saint-Siège nous a aidé beaucoup, peut-être pas récemment, mais il y a quelques années, dans le processus de paix en Irlande du Nord. Et je sais que Tony Blair, Gordon Brown et John Major étaient très encouragés pour cet appui de part de Saint-Siège de ce moment.
Et puis vous avez une ministre qui a donc pakistanaise, d'origine pakistanaise, qui a pris la parole récemment.
Oui, non, absolument. Le baroness Warsi, qui était le chef de cette délégation, c'est un ministre du gouvernement britannique, musulmane, mais une personne qui a parlé beaucoup sur le rôle de la chrétienté en Grande-Bretagne et a parlé beaucoup aussi sur, particulièrement en ce moment, de l'importance de la lutte pour les libertés de religion, liberté d'expression religieuse dans le monde.
Ce qui est saisissant quand on vous écoute, Nigel Baker, c'est que cette ministre est musulmane.
Oui, oui.
Et elle honore les racines chrétiennes du Royaume-Uni.
Oui, c'est important de reconnaître. Le Premier ministre David Cameron a dit une chose très intéressante avant le Noël. Il a dit que la Grande-Bretagne, c'est un pays chrétien. Et il a dit, il a parlé très ouvert, mais il a dit aussi, et je sais que mes compatriotes juifs, musulmans, hindous, bouddhistes, sont contents d'écouter un discours où un premier ministre peut dire cela. Parce qu'il dit quelque chose sur les valeurs que c'est un pays basé non seulement sur les politiques économiques, les politiques du jour en jour, mais sur des valeurs fondamentales qu'on partage entre toutes les grandes religions. C'est pour cela que David Cameron l'a dit, et c'était Barayan Sawasi a voulu répéter un peu, faire emphasis un peu sur ce point. C'est pas à dire qu'on peut pas être britannique sans être chrétien, absolument non. On peut être britannique sans croyance, mais c'est une manière de reconnaître qu'il y a, que c'est un pays avec une histoire, et la chrétienté est une partie très importante de cette histoire.
Vous voulez ajouter quelque chose?
Non, pour moi, c'était un grand plaisir de parler avec vous, vraiment avec les auditeurs francophones. Je suis britannique, je suis désolé si j'ai fait beaucoup d'erreurs en français, mais merci beaucoup pour cette opportunité.
Merci Nigel Baker.